chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bienvenue dans cette revue de presse du 21 septembre 2020. Voici les titres de l'actualité. Il est urgent de revenir à la normalité de la vie chrétienne avec la présence physique à la messe, nous dit le cardinal Robert Sarra dans sa dernière lettre « Revenons avec joie à l'Eucharistie ». Si vous avez suivi l'actualité du pape de jeudi dernier, Jérôme vous en a parlé. Du bon usage de l'imagination par le moine Ansel Grün, que vous connaissez sans doute ou que vous avez déjà lu. Donc il nous a donné un article dans le magazine Prier de octobre 2019. La semaine dernière, je vous ai parlé des écrans, du danger donc de cette dissociation qui pouvait y avoir entre les enfants et les adultes et dans les enfants eux-mêmes. L'imagination aujourd'hui est un peu blackboulée également, mais je vous dirai avec l'aide d'Ansel Grün que c'est un don du Créateur. Culture chrétienne. Je vais vous parler avec grande joie d'un grand écrivain, John Ronald Reuel Tolkien, connu pour être grand universitaire, auteur du Seigneur des Anneaux, mais j'insisterai sur la dimension spirituelle de cet écrivain, car en effet, c'était un grand catholique fervent et un grand priant. Je vous lirai donc le dossier réalisé par Xavier Accard, directeur de la publication du magazine Prier de octobre 2019. Je conclurai cette revue de presse avec également un livre du père Ludovic Frère que vous avez sans doute lu, Éloge spirituel de la patience. Je pense que la patience est aussi une question d'actualité. Je vous lirai un extrait donc en conclusion de cette revue de presse. Nous commençons cette revue de presse avec le cardinal Robert Sarra, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Dans sa dernière lettre, approuvée par le pape François, intitulée « Revenons avec joie à l'Eucharistie », il souligne que la messe virtuelle ne remplace pas la participation personnelle à l'Église. Les sources dans Vatican News. La pandémie due au nouveau coronavirus, écrit le cardinal Sarra, a provoqué des bouleversements non seulement dans les dynamiques sociales familiales, mais aussi dans la vie de la communauté chrétienne, y compris dans la dimension liturgique. Le prélat rappelle que la dimension communautaire a une signification théologique. Dieu est la relation des personnes dans la très sainte Trinité. Et il se met en relation avec l'homme et la femme, et les appelle à son tour à une relation avec lui. Ainsi, tandis que les païens construisaient des temples dédiés à la seule divinité auxquels les gens n'avaient pas accès, les chrétiens, dès qu'ils jouirent de la liberté de culte, construisirent immédiatement des lieux qui seraient Domus Dei et Domus Ecclesiae, où les fidèles pourraient se reconnaître comme la communauté de Dieu. C'est pourquoi la maison du Seigneur suppose la présence de la famille des enfants de Dieu. Comme l'explique ensuite le cardinal Sarra, bien que les médias rendent un service apprécié aux malades et à ceux qui ne peuvent pas aller à l'église et ont fourni un grand service dans la transmission de la Sainte Messe au moment où il n'y avait aucune possibilité de célébrer d'une manière communautaire, aucune transmission équivaut à une participation personnelle ou peut la remplacer. En effet, ces transmissions à elles seules risquent de nous éloigner d'une rencontre personnelle et intime avec le Dieu incarné qui s'est donné à nous non pas de manière virtuelle, mais réellement en disant « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » Ce contact physique avec le Seigneur est vital, indispensable, irremplaçable. Une fois que les mesures concrètement réalisables ont été identifiées et adoptées pour minimiser la contagion du virus, il faut que tous reprennent leur place dans l'assemblée des frères en encourageant ceux qui sont découragés, effrayés et depuis trop longtemps absents ou distraits. La lettre suggère également, quelques lignes d'action pour promouvoir un retour rapide et sûr à la célébration de l'Eucharistie. Une attention particulière aux normes d'hygiène et de sécurité ne peut pas conduire à la stérilisation des gestes et des rites, nous met en garde le cardinal Sarra. Par ailleurs, la congrégation compte sur l'action prudente mais ferme des évêques pour que la participation des fidèles à la célébration de l'Eucharistie ne soit pas déclassifiée par les autorités civiles comme un rassemblement et ne soit pas considérée comme comparable ou même subordonnée à forme d'agrégation récréative. En effet, le cardinal nous redit fermement « Les normes liturgiques ne sont pas une matière sur laquelle les autorités civiles peuvent légiférer. Seuls peuvent le faire les autorités ecclésiastiques compétentes. C'est inscrit dans Sacrosanctum Concilium numéro 22. Je peux même vous donner une autre source, Redemptionis Sacramentum numéro 92, où il est écrit « Tout fidèle a toujours le droit de recevoir selon son choix la Sainte Communion dans la bouche. C'est la loi de l'Église, valable même en cas de pandémie. » Donc le cardinal Sarah souligne bien que les prêtres ne doivent pas refuser la communion à la bouche. Voilà, du moment qu'on peut communier à la main et à la bouche, très bien, mais on ne peut pas priver un fidèle d'une manière de communier. C'est inscrit dans Redemptionis Sacramentum numéro 92. Et je vous répète donc cette dernière phrase très importante qui peut vous encourager et vous aider. Les normes liturgiques ne sont pas une matière sur laquelle les autorités civiles peuvent légiférer. Seules peuvent le faire les autorités ecclésiastiques compétentes, inscrites dans Sacrosanctum Concilium numéro 22. Voilà, c'est la dernière lettre, quelques extraits de la lettre du cardinal Sarah. Revenons avec joie à l'Eucharistie que vous pouvez retrouver sur Vatican News. L'imagination. Qu'est-ce que c'est ? Qu'en fait-on ? Quelle fin on lui donne ? Anselm nous fait comprendre que l'imagination est donnée par Dieu. Les artistes nous ont permis aussi de montrer l'image de Dieu dans la mesure où ils nous ont rappelé que c'était une faculté qui pouvait montrer la beauté de la création et la beauté de son créateur. Même si aujourd'hui, malheureusement, l'imagination est galvaudée, complètement blasphémée, souillée et pour certains, c'est même une sorte de schizophrénie. Voici ce que nous dit donc Anselm dans le magazine Prier du 1er octobre 2019. Devant l'univers de Tolkien, si fantastique qu'il en donne parfois le vertige, on peut se poser la question « L'imagination est-elle contraire à l'ascèse qui nous offre à la grâce ou peut-elle être au contraire un moyen de la recevoir ?» Lorsque je lis Le Seigneur des Anneaux, le premier aspect de l'imagination que je perçois est celui qui est au cœur des rêveries des jeunes gens. À l'excès, ces songeries d'exploits sportifs ou guerriers, par exemple, peuvent devenir une fuite devant la réalité. Mesurées, elles peuvent avoir une influence positive sur le développement, car l'adolescent crée un nouveau monde au sein duquel il imagine sa propre valeur et sa propre personnalité. Il peut lui être bénéfique de sentir qu'il n'est pas entièrement soumis à la dure réalité du monde, mais qu'il possède le pouvoir d'en créer un autre. Savourer un bon livre nous permet de la même façon de plonger dans un nouvel univers, de prendre du recul sur notre monde et d'échapper un moment à son emprise. Un deuxième aspect de l'imagination me saute aux yeux quand je lis dans la Bible les visions prophétiques d'un monde saint et sauvé. Certains pensent que ces prophéties ne sont que de jolies histoires racontées pour nous consoler d'une réalité trop dure. Pourtant, quand nous lisons le pèlerinage des nations à Sion, les mots d'Isaïe nous ouvrent véritablement à un autre monde, où les glaives sont transformés en socs de charrue. Isaïe chapitre 2, verset 4. Ces images puissantes nous font sentir que nous ne pouvons pas nous satisfaire du monde tel qu'il est, car Dieu œuvre déjà pour qu'un autre monde advienne. Et elles nous font inspirer à ce moment où le désert et la terre aride se réjouiront, où la steppe sera dans l'allégresse et fleurira comme le narcisse, dans Isaïe chapitre 35, verset 1. En cela, les prophéties ne sont pas là pour nous consoler, mais pour nous transformer. Le simple fait de laisser naître en nous leurs images transforme notre regard et à travers lui le monde dans lequel nous vivons. Le pouvoir de ces mots m'a été confirmé, nous dit Anselm, par le père Christian Fourreur qui, dans du temps de la RDA, pasteur de l'église Saint-Nicolas à Leipzig, où commencèrent les manifestations qui aboutirent à la chute du pouvoir communiste. Ce qui était imprimé sur du papier était soumis à une censure très stricte, mais il n'y avait pas de règles pour ce qui était imprimé sur du tissu. Le père Fourreur me raconta que les jeunes du mouvement pacifiste avaient profité de ce flou pour imprimer sur des bandelettes ces mots du prophète « De leurs glaives, ils forcheront des socs de charrue ». Ils les avaient cousus sur leurs jeans et leurs manteaux. Le gouvernement donna l'ordre à la police de les arracher. Les policiers eux-mêmes furent surpris que ces mots puissent effrayer à ce point le pouvoir. Les visions d'Isaïe font trembler les puissants et inspirent une société pour qu'elle se libère. Un troisième aspect de l'imagination qui me semble important est utilisé par les dernières méthodes d'accompagnement des malades du cancer. Il existe entre autres une technique de visualisation qui invite le malade à se représenter ses globules rouges sains transportant les cellules cancéreuses hors de son corps. Pourquoi ne pas transposer cet exercice dans notre vie spirituelle ? Je peux par exemple m'imaginer que l'amour guérisseur de Dieu entre en moi et transforme les zones malades en zones saines. Ou bien que je présente à Dieu mes peurs, ma dépression, ma jalousie, et qu'il les transforme en les inondant de son amour. L'imagination devient alors une porte par laquelle la grâce entre dans ma vie. Notre faculté d'imagination peut ainsi nous aider à laisser Dieu guérir notre âme. Mais à une condition, il ne s'agit pas d'imaginer n'importe quoi. Je dois m'imaginer ce que Dieu m'a donné, ce qu'il a déjà changé et transformé en moi. Par exemple, cet espace de silence sacré où il réside en moi, ou ce que Dieu a annoncé à travers ses prophètes et son Fils Jésus dans les Évangiles. Lorsque nous croyons à ces annonces bibliques, la force de guérison et de transformation de Dieu agit en nous à travers elles. Cette image d'un monde sauvé où le Seigneur règne, en étant lu et remémoré, agit dans notre vie, car elle ravive en nous l'espérance que le Seigneur créera toutes choses nouvelles, tout comme nous sommes capables de créer un monde nouveau par la simple force de notre imagination. Le simple fait de laisser naître en nous les images des prophètes transforme notre regard et, à travers lui, le monde. Voilà ce que nous dit Ansel Grum sur l'imagination dans son article paru dans le magazine Prier de octobre 2019. Juste avant une première pause musicale, je me permets de vous faire une petite introduction dans le grand dossier que je vais vous lire dans quelques instants, à propos de Tolkien. Voici ce que lui écrivait un homme en 1971. Il lui disait « Être un non-croyant, ou au mieux, un homme dont les sentiments religieux s'éveillent tardivement et faiblement. Mais vous créez un monde dans lequel une sorte de foi se trouve partout sans en avoir de source visible, comme une lumière projetée par une lampe invisible. » Même si Tolkien n'avait pas de velléité prosélyte, il considérait son œuvre comme fondamentalement catholique. De manière inconsciente d'abord, puis de manière consciente lorsque je l'ai retravaillé, nous dit-il à un ami jésuite en 1953. Je vous retrouve donc pour Tolkien juste après cette courte pause musicale. À tout de suite.
Voilà, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, c'est la revue de presse en direct avec Claire. Et à l'instant, on écoutait donc un extrait, Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, musique composée, orchestrée, dirigée par Howard Shore. Et on retrouve donc tout de suite Claire.
Nous commençons donc maintenant la culture chrétienne avec ce dossier spécial sur John Ronald Reuel Tolkien. Non seulement connu pour être un grand écrivain, un grand universitaire, un grand philologue aussi passionné de mythologie nordique, mais il est quand même important de souligner, nous en tant que chrétiens, que Tolkien était un catholique fervent et un grand priant. C'est ce que je vais vous faire découvrir maintenant. Orphelin de père, Tolkien a vu sa mère condamnée par sa famille et sa belle-famille à une vie difficile, sans soutien financier, quand sa recherche spirituelle l'avait conduite à rejoindre l'Église catholique dans le sillage du cardinal Newman. À partir de là, Tolkien fut élevé par le père spirituel de sa mère, donc une fois que celle-ci est décédée lorsqu'il avait 12 ans, par donc l'oratoria Francis Morgan, qui fit grandir en lui une foi qu'il communiquera plus tard à son ami et collègue Lewis, auteur du Monde de Narnia, transmis à ses enfants et en particulier à son fils aîné, devenu prêtre. Pour Tolkien, l'homme pouvait créer comme il avait été créé. C'est ce qu'il appelait la subcréation. Il imagina donc un monde avec ses langues, sa géographie et son histoire. Les récits qu'il y inscrivait devaient, comme les contes de fées, donner le goût de la joie évangélique pour ce qu'il appelait le catastrophe. Ce dénouement subi mettant en scène un événement inattendu, retournant brusquement une situation en apparence désespérée et faisant jaillir la joie du cœur, cette même joie qu'on peut ressentir devant un miracle. Le Seigneur des Anneaux, son maître livre qui est devenu un des grands mythes contemporains, illustre bien ce point de vue. Ce vaste geste se situe à un moment clé de l'histoire de la Terre du Milieu, c'est-à-dire notre monde à une époque ancienne mais imaginaire. La puissance qui manifeste le mal renaît alors qu'elle avait été vaincue des siècles auparavant. Sauron, pour asseoir sa domination, a besoin de retrouver l'anneau dans lequel il a jadis concentré son pouvoir. Or celui-ci, par un hasard providentiel, a échu à Bilbon le Hobbit. Les Hobbits sont des êtres de petite taille qui appartiennent au rameau des hommes, mais sans la force ni l'orgueil qui caractérisent ceux-ci. Aidé par Gandalf, un envoyé de la Providence qui a un respect sacré du libre-arbitre des créatures, le neveu de Bilbon, Frodon, va devoir détruire l'anneau en se rendant au cœur du royaume maléfique. Bon, je pense que vous connaissez tous par cœur le livre et le film du Seigneur des Anneaux. Donc, sur le chemin, il prend conscience du caractère sacrificiel de sa mission. Il s'agit pour lui non de conquérir la gloire ou la puissance, mais de détruire l'instrument du pouvoir. Son plus redoutable obstacle ne réside pas dans les ennemis extérieurs, mais dans l'anneau maléfique qui tente de pervertir sa volonté et y parvient finalement. C'est un point clé de l'histoire. Au terme d'un chemin de croix, au moment de jeter son fardeau dans le brasier de la montagne du destin, Frodon recule pour conserver son précieux. Cet échec manifestait pour Tolkien l'impuissance de la nature humaine dépourvue de la grâce, ce qui fondait la dernière demande du Notre Père. Mais la miséricorde que Frodon a manifestée et que l'auteur reliait à la cinquième demande de la même prière va cependant permettre à la quête de réussir. Durant tout son voyage, Frodon a en été suivi par Gollum, un ancien porteur de l'anneau obsédé par le désir de le récupérer. Au lieu d'éliminer cette créature repoussante qui a tenté de le tuer, l'Hobbit lui a fait grâce. Rongé par la concupiscence, Gollum surgit au moment où Frodon, intérieurement vaincu, échoue à se séparer de l'anneau et le lui arrache. Ivre de joie, Gollum perd l'équilibre et tombe avec l'objet maléfique dans le gouffre. C'est alors que s'accomplit la victoire du camp de la vie. Ce retournement heureux et inattendu nous ouvre un instant à cette joie pure qui se trouve par excellence dans le catastrophe de l'histoire humaine, la résurrection. Nous quittons maintenant l'histoire du Seigneur des Anneaux pour nous mettre un petit peu dans l'intimité spirituelle de Tolkien. Les lettres de Tolkien, qui ont été réunies en un volume, révèle un homme de foi ardente qui se souvient avec émotion de la passion de sa mère abandonnée par les siens pour avoir embrassé le catholicisme. L'auteur du Seigneur des Anneaux y apparaît comme un père qui tente de transmettre la foi à ses enfants et n'hésite pas pour cela à leur donner des conseils qui se rapprochent d'une direction spirituelle. Il témoigne également à une ou deux reprises d'expériences qu'on pourrait qualifier de mystiques. La première serait d'abord de louer Dieu. Très concret, me direz-vous. Le premier but de l'existence, écrivait Tolkien en mai 1969, est d'améliorer notre connaissance de Dieu par tous les moyens dont nous disposons et qu'elle nous incite à le louer et à le remercier. Et à faire comme nous le disons dans le Gloria, nous te louons, nous te disons saint, nous t'adorons, nous proclamons ta gloire. Et il ajoute, dans les moments d'exaltation, nous pouvons appeler toutes les choses créées à se joindre à notre cœur, en parlant pour elles, comme dans le psaume 148 et dans le cantique des trois enfants. Outre les prières déjà citées, Tolkien recommande à son fils, le 8 janvier 1944, d'autres grands textes pour louer le Gloria Patri, qui oriente vers la Sainte Trinité, le Laudate Dominum et surtout le Laudate Pueri Dominum qu'il aime tout particulièrement, qui reprend en fait le psaume 112. Prier le canon est un autre texte aussi qu'il suggère à son fils pour mémoriser tout simplement le canon de la prière eucharistique. Car, précise-t-il, tu peux le réciter dans ton cœur si jamais des circonstances difficiles t'empêchent d'assister à la messe. Cette habitude fait penser à ce que l'on appelait jadis, durant la Révolution française, une messe blanche, c'est-à-dire le fait de reprendre les paroles de la prière eucharistique pour se pénétrer de leur sens spirituel. Elle rappelle l'importance que revêtait la messe pour Tolkien, qui s'y rendait souvent à l'aube en se confessant avant, si cela lui était possible. Des sombres profondeurs de ma vie, plein de frustration, je te livre la seule chose grandiose qu'il faut chérir sur terre, le Saint-Sacrement. écrivait Tolkien à son fils en mars 1941. Il recommandait, pour garder sa foi vive, de communier fréquemment, soulignant l'importance de la réforme pastorale de Saint-Pie-X. Le seul remède à la foi qui flanche et faiblit est la communion, écrivait-il encore en 1963. Bien qu'il reste tel qu'en lui-même parfait, complet et intact, le Saint-Sacrement n'agit pas totalement et une fois pour toutes en chacun de nous. Tout comme l'acte de foi, il doit être permanent et s'affirmer par la pratique. La régularité est d'une extrême efficacité. 7 fois par semaine est plus nourrissant que 7 fois séparées par des intervalles. Tolkien, comme vous venez de l'entendre, était donc un grand amoureux du Saint-Sacrement et de la Sainte Communion. Tolkien révère également Marie, dont il a tiré sa conception de la beauté. Il garde un rosaire près de son lit, apprend-on dans la lettre du 18 janvier 1944. Et parmi les louanges qu'il conseille de mémoriser, se trouve aussi le Cantique de Marie lors de sa visite à sa cousine Élisabeth. Il recommande aussi les Litanies de Lorette, un merveilleux texte qui s'adresse à la Vierge Marie sous des noms à la fois poétiques et mystiques, qu'il suggère d'accompagner de la plus ancienne oraison mariale connue, à savoir le Sub Tuum Presidium, qui s'intitule « Sous l'abri de ta miséricorde ». Enfin, comme souvent le font les personnes spirituelles, Tolkien avait une dévotion à l'ange gardien. Il écrivait à son fils en janvier 1944 « Souviens-toi de ton ange gardien ». Et en novembre de la même année, alors qu'il participait aux 40 heures d'adoration du Saint-Sacrement, il eut une vision soudaine, accompagnée d'un sentiment immense de joie. L'attention personnelle de Dieu à son égard lui est apparue comme la source d'un nouvel être, son ange gardien. À l'occasion, pour ceux qui habitent à Paris, la Bibliothèque nationale de France avait consacré une grande exposition à la dimension spirituelle de Tolkien. Au sein du Seigneur des Anneaux, lui, la lampe invisible de la foi qui animait ce grand priant. Je vous retrouve après cette dernière pause musicale pour le dernier ouvrage de la culture chrétienne. Il est temps de finir cette revue de presse avec le dernier ouvrage du père Ludovic Frère, donc qui s'intitule « Éloge spirituel de la patience ». Sainte patience, priez pour nous. Devant la difficulté à laquelle personne n'échappe, à mettre sa vertu en pratique, comment progresser ? Un peu de patience, commençons d'abord par analyser les mécanismes psychologiques et spirituels, expliquant le pourquoi de toutes nos impatiences. Prenons ensuite le temps de découvrir et contempler dans l'Évangile la sainte patience de Dieu. Nous pourrons alors mettre en œuvre tous les exercices clés proposés dans cet ouvrage qui nous permettent de sortir des impasses de l'impatience. Il s'agit donc du livre de Ludovic Frère, actuel recteur de Notre-Dame-du-Lot, Éloge spirituel de la patience. Je passe maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Chers auditeurs, je finis très rapidement cette revue de presse avant de vous laisser pour le chapelet de la Divine Miséricorde. J'ai commencé avec la lettre du cardinal Sarah, revenons avec joie à l'Eucharistie, une lettre approuvée par le pape François et que vous pouvez retrouver sur Vatican News. Du bon usage de l'imagination de Ansel Grum, paru dans le magazine Prier de octobre 2019. Culture chrétienne, j'ai pris le temps de vous parler de Tolkien, donc l'auteur du Seigneur des Anneaux, grand catholique fervent et aussi un grand priant. Éloge spirituel de la patience, un des livres peut-être qui pourrait nous inspirer ces temps-ci du père Ludovic Frère, paru aux éditions Artege. Je vous retrouve avec joie pour une prochaine revue de presse. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria.